L'évangile de Marc, chapitre 3, les versets 20 à 35. L'évangile de Marc, chapitre 3, versets 20 à 35, au nom de Jésus. Jésus revint ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples n'avait pas même le temps de manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir le prendre, car ils disaient, il a perdu la raison. Les maîtres de la loi qui étaient venus de Jérusalem jusque-là disaient, il a Belzéboul, le diable en lui. D'autres disaient, c'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits. Alors Jésus les appela et leur parla au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il se chasser lui-même? Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il y a de la division dans son royaume, son pouvoir ne peut pas continuer à exister, mais prend fin. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort, mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les hommes pourront être pardonnés de tous leurs péchés et de toutes les insultes qu'ils auront prononcées. Mais l'homme qui insultera le Saint-Esprit ne recevra jamais de pardon, car il aura commis un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait, il a un esprit mauvais en lui. La mère et les frères de Jésus arrivèrent alors. Ils se tinrent en dehors de la maison et lui envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit, écoute, ta mère et tes frères sont dehors et ils t'attendent, ils te demandent. Jésus répondit, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit, voyez, ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait ce que Dieu veut est mon frère, ma sœur ou ma mère. Amen. Dimanche passé, nous avions parlé de ce que c'est que la foi. Et le texte que nous avons aujourd'hui est encore dans cette thématique. Nous avons une très belle occasion de voir ici, selon moi, la différence entre la foi et les croyances. Il y a deux réactions similaires dans notre péricope ici qui mettent en exergue que lorsqu'on ne sait pas ou lorsqu'on est dans une ignorance d'une chose, tout de suite nous tombons dans les dérives. On dit des bêtises quand on ne sait pas ce qu'on voit. Et pire, nous pouvons même tomber dans ce qu'on appelle le blasphème, comme dans le cas des pharisiens ici. Ils n'ont rien compris à ce que Jésus avait fait en guérissant un démoniaque aveugle, qui n'est pas annoncé dans le texte, mais dans d'autres évangiles synoptiques, un démoniaque aveugle, sourd et muet. Et la seule chose qu'il pouvait trouver comme explication, Jésus a Belzéboul en lui pour guérir ce malade. C'est la seule explication qu'ils ont trouvée. Il n'était pas le seul à penser comme cela. Les gens de la parenté de Jésus a aussi avait une réaction qui n'est pas moindre de ses scribes en disant que Jésus avait perdu la raison. Et c'est sa mère qui disait cela. Oh, il a perdu la raison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus qu'étonnés de voir leur Jésus à eux devenir un rabbi qui enseigne et dit des choses que l'on n'a jamais entendues, il divague. Si Jésus vivait à notre époque, on pourrait dire peut-être qu'il a fumé quelque chose. Et à un certain moment, Jésus n'avait même plus le temps de manger parce qu'il était tout le temps en train d'enseigner. Vous imaginez, il enseigne depuis le matin jusqu'au soir, non-stop. Alors, la famille croyait qu'il avait un mauvais esprit en lui, ce qui le fait parler, parler, parler. Et c'est justement là que je veux en venir. La foi n'est pas du tout une aventure dans le flou, ou bien parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose et qu'il suffit d'y croire. Même nous aussi, on dit « oui, mais je ne peux pas comprendre, mais j'y crois tout simplement ». C'est vrai qu'il y a quelque chose qui dépasse notre entendement, mais la foi, ce n'est pas le fait de se jeter dans le vide, dans l'inconnu. Au contraire, Paul dit clairement dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12, « Je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Regardez bien cette phrase. Je sais, il y a une connaissance, mais cette connaissance, elle n'est pas une connaissance cognitive, mais relationnelle avec un être, le Christ. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Le reste, ça ne me regarde pas. Je sais en qui j'ai mis ma confiance, le Christ, et c'est lui qui s'en occupe pour le reste. C'est ça la foi. Donc, il y a une base, c'est une personne. Et c'est ce qui différencie la foi et la croyance. Parce que cette croyance, on cultive le mystère autour des croyances. Et quand cette culture de mystère prend la place, il est facile de garder les gens dans la crainte et dans la peur. La suite de la phrase de Paul démontre bien que plus je connais celui en qui j'ai mis ma foi, plus j'aurai confiance en lui. Alors, chers amis, c'est là la clé de notre vie, dans la foi. Plus tu connais le Christ, plus tu as confiance en lui. Et je reprends une expression chez nous qui dit, littéralement, on rêve d'avoir parfois des euros, tout en restant au lit. Il y a beaucoup de chrétiens comme cela, ils rêvent à avancer dans la foi, mais ne veulent pas avancer dans le chemin de la connaissance en qui il a mis sa foi. Et parfois, la foi qu'on croit avoir, ce ne sont que des émotions. Un peu comme les mousses de coca. Et finalement, il n'y a pas de contenu. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est de la croyance. La foi, elle a de la subsistance. Il y a du concret. Et c'est plus que dangereux, ce genre d'attitude, car on peut facilement tomber dans des dérives qui est une ouverture pour les autres croyances autour de nous, comme l'ésotérisme. Et même, on pourrait faire une marche arrière dangereuse dans le paganisme. On n'a pas une foi profonde enracinée dans la connaissance de notre Seigneur, mais dans des phénomènes. On regarde autour de nous, on regarde en fonction de ce qui se passe, et c'est là qu'on se dit « Ah, ma foi, elle se porte bien ». Alors ça, ce n'est pas la foi. La foi, elle est enracinée en Christ. Et là, je ne veux pas être méchant, loin de moi le désir de le devenir ici, mais le texte que nous avons sous nos yeux est trop flagrant. Regardez comment Jésus répond à sa mère et à sa famille. Il dit que sa vraie mère et ses vrais frères et sœurs sont ceux et celles qui écoutent sa parole et non sa mère biologique. Ça fait beaucoup parler, cette phrase. Mais je ne vais pas entrer dans la polémique. Mais là, nous touchons un exemple concret sur la foi et la croyance. On a décidé un beau jour que Marie aurait sa place dans la divinité de son fils. On lui a prêté des choses qui ne ressortent pas du tout de la foi, mais plutôt de la croyance. Par exemple, l'Immaculée Conception, que Marie n'a pas hérité le péché, car il serait impossible pour l'enfant qui a été enfanté ne pas être atteint du péché dès le ventre de sa mère. Ça, c'est une croyance. Autre chose, toujours en lien avec Marie, l'Assomption qui stipulerait qu'après sa mort, je dis bien après sa mort, Marie aurait été enlevée corps et âme dans son tombeau vers le ciel à cause ou grâce à son immaculée conception. Cet exemple typique nous montre à quel point les croyances, si pieuses soient-elles, soient fondées que sur des chocs émotionnels. À nous aussi, faisons très attention, car nous aussi, nous avons nos petites croyances quotidiennes que nous avons peut-être héritées de nos parents ou des milieux où nous avons évolué, ou tout simplement des croyances populaires qui sembleraient être plus que normales à nos yeux, mais en s'approchant plus près, à travers la lumière des Saintes Écritures, nous pourrions être surpris que nous avons pas mal de croyances qui nous gangrènent dans la vie. Vérifiez un peu dans vos vies quotidiennes. Il y a des petites croyances, parfois, qui nous accompagnent. Mais au fond, que constatons-nous dans la réponse apportée soit par Marie, et soit par les scribes face à Jésus, quand ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu? Je ne sais pas pour vous quand vous avez suivi la lecture, mais moi je ressens de la peur derrière. Il a le Belzébul. Il a perdu la raison. Pour la famille de Jésus, ils étaient même obligés de le saisir de force, car ils pensaient qu'il avait perdu la raison. Dans d'autres versions, on a interprété cela qu'ils étaient stupéfaits de voir Jésus ainsi. Et du côté des scribes, quand ils ont vu Jésus guérir un démoniaque, ils étaient déstabilisés, car on ne voyait pas cela tous les jours. Et donc forcément, la peur s'installe. Dans le livre des Actes, il y a un récit intéressant qui relate une discussion que Paul avait eue avec les Athéniens. Il disait « J'ai visité votre ville et vu vos monuments sacrés ». Il a constaté que cette ville était très pieuse, car il y avait beaucoup d'autels dédiés aux différents dieux, déesses. Et il avait remarqué un autel vide. Et sur cet autel vide, il y avait une inscription dessus, à un dieu inconnu. Donc ils avaient tellement peur de décevoir un quelconque dieu, alors par précaution, ils ont dédié cet autel pour tous les dieux non répertoriés. Je vous parle de ce récit pour vous dire, l'homme se réfugie derrière une ou plusieurs croyances quand il vit dans la peur. Quand il vit dans la crainte, alors tout de suite il cherche une croyance. C'est la raison. J'ai travaillé 10 ans dans l'église au pays, 90% des gens qui viennent pour des soi-disant forces de mal qui les poursuivaient, on ne peut pas les blâmer. Ils ont peur, donc ils cherchent une protection. Nous nous réfugions derrière des croyances pour se sentir bien. C'est un peu une assurance. Ensemble, la croyance ou les croyances, c'est une réponse que nous essayons d'apporter face aux problèmes de la vie. Donc, finalement, la croyance, elle vient de nous-mêmes, de notre imagination. Elle ne vient pas d'un Dieu. Mais déjà, la foi, ce qui fait sa différence, ce n'est pas un sentiment, ni le fruit d'une émotion. La foi est toujours en lien avec une personne. Donc, elle est basée sur une réalité de fait. Et cette réalité-là, sur qui elle est basée? Qu'est-ce qu'il a fait, cette personne? Jésus, il a donné sa vie. Donc nous pouvons constater que la foi n'est nullement une chose abstraite ni philosophique, mais c'est du concret, du réel. Et rien qu'en observant notre confession de foi tous les dimanches, tout est réel. Je crois en Dieu, et ça ne s'arrête pas là, la suite, qui a créé le ciel et la terre, c'est du réel. Je crois en Jésus qui est mort sur la croix au temps de Pilate. Ce n'est pas une légende, ça a existé. Je crois au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a créé l'Église. Il y a toujours du réel par la suite. Alors, chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous avons notre cœur en nous qui vit déjà les réalités célestes. Mais cette réalité céleste, elle a un enracinement concret. Jésus-Christ, fils d'un homme. Et donc, nous avons aussi les pieds sur terre. Un chrétien n'a pas simplement son cœur dans le ciel, mais il a aussi ses pieds sur terre. Et nous pourrons dire comme Paul, « Mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. »